RTL Matin.
Bernard Poirette.
Invité de RTL ce samedi matin, Pierre Cardot, le président de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Monsieur Cardot, bonjour.
Bonjour, pas encore. Alors, routier.
Je vous en prie. Dans ce qui a été présenté de la loi Macron mercredi dernier, il a été question des péages autoroutiers. Alors vous savez qu'il y a un grand débat en France, ça a été privatisé il y a quelques années, et apparemment les sociétés d'autoroutes abusent sur le prix des péages. L'État peut-il quelque chose et doit-il intervenir dans ce domaine?
L'État peut intervenir s'il le souhaite. Comment? Dans ce domaine. Simplement, on ne peut pas remettre en cause des conventions qui ont été signées. La parole de l'État, c'est la parole de l'État. Ça risquerait de nous coûter très cher. Donc, au-delà des déclarations diverses et variées, il y a une possibilité, si on donne les moyens à une autorité publique indépendante comme la nôtre, qui doit déjà fonctionner dans le ferroviaire, d'aller dans les comptes et de vérifier que les conventions ont bien été respectées, c'est-à-dire que des autorisations qu'on a données d'extension de la durée de convention, ce qui, quelque part, permet, à l'exploitant, concessionnaire, de continuer à bénéficier des avantages de ce qu'il gère, eh bien à ce moment-là, il y a obligatoirement à vérifier qu'en contrepartie, une partie des travaux qui a été autorisée n'était pas déjà prévue à la convention de base.
D'accord.
Première chose. Deuxièmement, quand on finance le télépéage, par exemple, ce qui est un exemple qui a été sorti au Sénat il n'y a pas longtemps, qui avait l'air de surprendre tout le monde, il y a un gain de productivité qui est donné finalement aux gestionnaires d'autoroutes.
Parce qu'on enlève des péagistes.
Voilà, entre autres. Donc ce gain de productivité, est-ce qu'il est normal qu'il l'ait gardé pour eux tout seuls, ou est-ce que quelque part, il ne doit pas y avoir une contrepartie? Et ça, à mon avis, ça fait partie d'un des axes sur lesquels il faudra travailler si on nous confie la gestion de ce problème.
Donc sur ce point-là, en tout cas, le gouvernement a une petite marge.
Il peut faire quelque chose pour
faire baisser la note de l'automobiliste.
Oui, puis en ce moment, il faut admettre aussi que les sociétés concessionnaires sont adossées à des grands du BTP qui manquent de travaux parce que les collectivités sont exsangues aujourd'hui. Et quelque part, si on leur propose 3 milliards et quelques de travaux supplémentaires à réaliser, c'est ce que l'Europe vient d'autoriser, ben à ce moment-là, il faut négocier, parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas uniquement l'État qui en a besoin pour créer de l'emploi.
D'accord.
Ils ont besoin d'activités pour eux. Donc, bon, je pense qu'il y a tous les éléments requis pour permettre une bonne négociation. Simplement, il ne faut pas croire que ça va se faire en 2 mois.
Monsieur Cardot, par ailleurs, dans ce qui a été connu de la loi Macron, il a été dit qu'on allait ouvrir massivement à l'autocar des trajets qui auparavant étaient réservés au rail et notamment à la SNCF. Bon, on est en pleine lutte contre le réchauffement climatique. Pardonnez-moi, mais il y a un truc qui m'échappe.
Bon, d'abord, il y a des liaisons qui ne sont pas assurées totalement par le fer. Ensuite, il y a des liaisons qui sont, si vous voulez, financées par les régions, les collectivités territoriales, qui sont des TER, qui roulent souvent avec, et notamment à certains horaires, pratiquement à vide.
Presque vide, oui.
Eh bien, un TER qui est quand même assez lourd, qui fonctionne quasiment à vide, ça polluera davantage qu'un bus nouvellement équipé sur les normes environnementales et qui est quasiment plein. D'autant plus qu'il y a parfois plus de confort.
Donc, à terme, ça veut dire qu'il y a encore des lignes SNCF qui vont fermer, des lignes locales.
Il peut y avoir effectivement, en tout cas, certains déplacements qui pourraient être supprimés. Ça, ce sont les collectivités territoriales qui vont en décider. Aujourd'hui, elles n'ont pas d'argent. Elles sont toutes en train de crier, à juste titre, qu'elles manquent de financement. Si elles veulent faire des économies, c'est à elles de prendre les bonnes décisions sur la façon de transporter l'usager, le client et le contribuable en même temps, au meilleur prix.
En train ou en bus?
En train ou en bus. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir quelque part la concurrence sur le ferroviaire lui-même déjà avant d'ouvrir le bus? Bon, il y a peut-être quelque part là une difficulté, effectivement, qui aurait été préférable d'éviter dans cette décision.
Mais il y a une ouverture au privé. Par exemple, lundi, il y a une ouverture sur Marseille-Milan par une compagnie qui s'appelle Tello.
Alors,
qui est totalement privé.
Alors, vous savez, la concurrence sur le ferroviaire aujourd'hui, en France, elle n'est possible que dans le fret depuis environ 7 ans et depuis 3-4 ans sur le transport international de voyageurs. Donc Tello, c'est parce qu'ils font du transport international qu'ils ont l'autorisation de faire un peu de cabotage. Mmh. Mais il ne faut pas que ça dépasse un certain chiffre d'affaires, un nombre de passagers, etc. Donc c'est assez compliqué. Il ne faut pas non plus que ça déséquilibre la convention des TER avec la région PACA SNCF. Donc c'est tout ce travail qu'on a dû effectuer. Complètement. Donc ils ne font que 3 allers-retours dans la journée, dont un qui est totalement en dehors des horaires. Il me paraît assez intéressant d'observer qu'il y a des gens qui seront probablement très intéressés parce que d'abord, d'un arrêt à un autre, il y a beaucoup moins, il fait pas l'omnibus, Tello, il y a beaucoup moins de temps de parcours. Donc c'est une prestation supplémentaire qu'on offre à l'usager à un prix différent, sans subvention. Est-ce que c'est vraiment problématique ou est-ce que c'est positif? À mon avis, c'est positif, mais c'est le seul cas où vous observez qu'il y a une concurrence aujourd'hui.
D'accord.
Et ça, c'est un cas très particulier. Est-ce que la question n'était pas d'abord d'ouvrir à la concurrence, compte tenu de la réforme qui vient de se dérouler? Elle ne prévoit la concurrence que dans plusieurs années.
Monsieur Cardot, dans bien des cas, une liaison avion est moins chère qu'une liaison ferrée. Est-ce que ça veut dire que la SNCF, pour remplir ses trains à bloc et être potentiellement rentable, doit baisser ses prix?
Écoutez, je pense que d'abord, ils essayent au maximum, enfin, le président de la SNCF a mis en place Ouigo, oui. TGV à bas coût.
Guillaume Pepy qui sera demain soir au Grand Jury.
Voilà, donc de ce côté-là, je pense qu'ils essayent de trouver tous les moyens possibles pour lutter contre une concurrence. Mais il faut admettre aussi que la SNCF, elle n'a pas que le train dans ses activités. Mmh. Le premier concurrent de la SNCF sur le train, c'est la SNCF. Avec Idébus, il y a Keolis, enfin, il y a... Bon, et puis ils ont le covoiturage aussi. Donc, on a affaire déjà à un groupe qui est sur plusieurs modes de transport. Donc, d'une certaine façon, la logique, c'est que le régulateur de son côté soit pas uniquement sur le ferroviaire, mais soit un régulateur sur l'ensemble des modes de transport. Et quant à l'avion, bah, on verra comment on peut lutter contre. Mais le bus est un moyen aussi, peut-être, dans certains cas, pour certains publics seulement, de lutter contre l'avion aussi.
Merci beaucoup. Pierre Cardot, président de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, invité de RTL ce samedi matin. Je vous souhaite un bon week-end, monsieur Cardot.
Merci beaucoup. Merci à vous de même.